Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
Déjà, vous lire un premier verset que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 22. C'est l'apôtre Jean, il est sur l'île de Patmos et il est captif. Et il reçoit des visions du Seigneur, et dans une des visions qu'il va recevoir, il va déclarer « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Le rapport que nous pouvons avoir au temple en tant que chrétiens est très particulier. J'ai, en tant que pasteur, une expérience du temple. J'ai passé beaucoup de temps dans le temple. Mais parfois, c'est très particulier le rapport qu'en tant que chrétien, on peut avoir au temple. Notre rapport au temple peut être éminemment imprégné de toutes sortes de traditions. L'image que l'on a du temple, la manière dont on l'appréhende, peut être évidemment portée par énormément de traditions. Ce qui est important pour moi, c'est de replacer le temple là où il doit être, évidemment dans son contexte historique, mais de tout ce que ça peut nous ramener aussi à nous aujourd'hui, et comment nous devons considérer évidemment le temple et l'importance qu'il doit avoir dans l'exercice de notre foi et plus particulièrement de notre culte. Dans l'Apocalypse, Jean a la vision de l'éternité. Et bizarrement, dans l'éternité, il n'y a pas de temple. Pas de temple. Ou, plus défini d'une autre manière, il dit qu'il y a un temple, mais ce n'est pas un temple tel qu'on peut l'imaginer. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ainsi que l'agneau qui est son temple. La vision de l'éternité qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse de Jean a de quoi nous surprendre, nous étonner. En effet, Jean y déclare qu'il ne voit pas de temple, car le Seigneur est lui-même le temple. Et cette vision marque non seulement la finalité terrestre de la révélation, et de tout ce que cela suppose et nécessite, mais bien plus encore. Jean nous ouvre sur la réalité éternelle et évidemment l'accomplissement de toutes choses, puisque lorsque nous serons dans l'éternité, toutes choses auront été accomplies. Nous sommes actuellement dans le déjà, et puis il reste encore tout le pas encore. Nous sommes déjà assis en espérance dans les lieux célestes, mais concrètement, on n'y est pas encore. Donc nous sommes dans cette dimension intermédiaire, dans cette partie du déjà, et il nous tarde en tant que croyants d'être évidemment dans le pas encore, lorsque toutes choses seront parvenues à leur accomplissement. À en croire Jean, nous allons donc vers une éternité sans temple, au sens de construction. Ou plutôt une éternité où tout sera temple. Puisque le Seigneur lui-même sera le temple. Une telle vision s'oppose à toute l'espérance du judaïsme. Parce que dans le judaïsme, le temple, c'est une centralité. Pour les juifs, le temple est tellement important. Et donc toute l'espérance du judaïsme, et notamment l'espérance de la reconstruction du temple, eh bien Jean va amener cette espérance dans une finalité en disant, en réalité, vous espérez après un temple encore plus beau que les deux autres, mais dites-vous que le temple dans lequel vous espérez ne sera pas, et que le véritable temple est bien plus beau, bien plus grand. Il n'est pas fait de main d'homme, il s'agit de Dieu lui-même en tant que temple. Ainsi, dans la cité céleste, Dieu sera toujours et parfaitement présent au milieu des hommes. Toujours et parfaitement présent. Vous savez, dans le temple à Jérusalem, Dieu n'a pas toujours été présent. Et le fait que le temple a été détruit deux fois nous prouve bien que Dieu n'a pas toujours été présent. Même dans le tabernacle, il y a eu des moments où Dieu a dit « Ichabod, la gloire de Dieu est bannie ». Dieu sortait de son palais, de son temple. Ainsi, dans le livre de l'Apocalypse, nous avons un avant-goût du culte futur, étant donné que Dieu sera lui-même le temple. Dieu, autant que son Fils, sera directement et pleinement accessible à son peuple. Seulement, avant d'en arriver à cette finalité concernant la fin des temps, on appelle ça eschatologique, nous découvrons à la lecture de notre Bible que le temple traverse la totalité des Écritures. Il a toujours revêtu pour le peuple d'Israël une importance capitale, car il était le centre géographique de l'adoration, où chacun était appelé à se rendre pour apporter son culte à Dieu. Le temple ne cesse de nous renvoyer à une logique théocentrique, Dieu au centre de tout. Et comme il n'y avait qu'un seul temple, il fallait se déranger, se déplacer jusqu'à Jérusalem pour aller rencontrer Dieu, pour l'adorer. Et le temple nous renvoie à cette logique de Dieu au centre, car il est défini comme étant le lieu de la présence de Dieu, ou plus précisément, le lieu où l'on vient le rencontrer, où il a décidé qu'on vienne l'adorer. Mais la présence dans le temple de Jérusalem ne renversait pas l'équilibre qu'il peut y avoir entre le fait que Dieu soit partout. Il n'est pas en un seul lieu, Dieu. Il est partout, il est transcendant. Et l'immanence de Dieu, le fait que Dieu soutienne toute chose et interagisse sur toute chose, le temple ne renversait pas cet équilibre-là. C'est pas parce que Dieu dit « je vais me révéler en un lieu précis » que Dieu n'était pas partout ailleurs. Et c'est pas parce qu'il agissait dans ce lieu d'une manière très précise qu'il n'agissait pas ailleurs. Dieu est partout présent car le ciel, dans toute son immensité, nous dit la Bible, ne saurait le contenir. Mais par sa présence géographique particulière dans le temple, il se met à la disposition exclusive de ceux qui ont le privilège de venir au temple pour lui rendre un culte. Et c'est donc dans le temple que l'on faisait l'expérience de l'intimité de Dieu, que l'on venait rencontrer Dieu intimement. Et cette sacralité de la présence divine en un lieu cultuel comme le temple, c'est-à-dire dans lequel Dieu s'investit plus que dans un autre lieu, est inséparable du mont Sinaï et du pays promis. Parce que le mont Sinaï était aussi un temple. Partout où l'on rencontre Dieu, d'une manière intime, ce lieu devient, entre guillemets, un temple. De même, la présence de Dieu dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. On appelait et on appelle en théologie, en commentaire biblique, le temple-jardin. L'Éden était considéré comme un temple-jardin, un lieu où l'on rencontrait Dieu, où Dieu était en activité, où on allait confronter cette intimité de Dieu. Et ce temple-jardin préfigure la présence de Dieu aussi à Jérusalem, sur le mont Sion. On lit également que chaque manifestation de Dieu au patriarche fut l'occasion de sacraliser le lieu. En dressant une stèle, en répandant de l'huile sur son sommet pour la consacrer. Dans Genèse 28-19, on découvre Jacob qui va appeler le lieu où Dieu s'est révélé à lui, Bethel. Et le mot Bethel vient de l'hébreu Bayit. Et le mot baït parle de la maison ou encore du temple de Dieu, le baït de elle, la maison de Dieu, le temple de Dieu. Lorsque Jacob a rencontré Dieu, il a dit « ce lieu est le temple de Dieu ». Voilà aussi pourquoi Dieu dira à Moïse « tout lieu que foule la plante de tes pieds, parce que je suis avec toi, ce lieu devient une terre sainte, un temple ». Au mont Sinaï, l'Éternel apparut à Moïse dans un buisson ardent, puis à tout Israël dans le tonnerre et les éclairs, une épaisse nuée et la fumée. Au milieu des pérégrinations d'Israël, avant d'entrer dans le pays de la promesse, la gloire de Dieu a habité dans une tente royale transportable qui abritait l'arche de l'Alliance, l'arche du témoignage. Enfin, quand Salomon a construit le temple de pierre et d'or, symbolisant le plein établissement du royaume, la sacralité de la présence divine a été transférée dans le temple et surtout sur le mont Sion. Et ça a pris même une proportion au-delà de ce que ça devait être. Pourquoi au-delà ? Parce que pour les Juifs, comme c'était la présence de Dieu, Jérusalem était donc indestructible. Le temple était indestructible parce que Dieu était là. Alors ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Le temple était le cœur du monde, le cordon ombilical du monde, tel que les païens pouvaient penser leur temple à eux. Et là, ils étaient allés un petit peu trop loin dans la manière d'appréhender le temple. La preuve, c'est qu'il a été détruit deux fois, et Jérusalem a été, elle aussi, détruite. Dans l'histoire d'Israël, le temple a revêtu des formes différentes en fonction des différentes dispensations. Mais comme nous le verrons dans un prochain message, le temple n'est pas qu'une préoccupation essentiellement liée à l'Ancien Testament et au peuple juif. Il concerne l'ensemble des Écritures et nous témoigne d'une quantité de réalités spirituelles. Et sans retracer plus en détail tout l'historique dans le temple de l'Ancien Testament, je souhaite plus particulièrement ce matin, directement en arriver à la période de Jésus, on appelle ça aussi la période du second temple. Donc le temple qui a été construit sous Hérode. De son incarnation à Jésus et de son rapport au temple. Parce que le rapport de Jésus au temple peut nous apprendre énormément de choses à nous qui sommes chrétiens. La première fois qu'on voit Jésus dans le temple, il est bébé. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, 21 à 38, je vous fais la lecture, il est dit que le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis, il est parlé de Jésus étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, Joshua, Josué, Sauveur. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et c'est en souvenir de la Pâque où tous les premiers-nés d'Égypte sont morts. À part les premiers-nés du peuple d'Israël, des Hébreux, qui ont été épargnés par le sang. Et donc, à la suite de cela, il fallait consacrer son premier-né et même verser une offrande, 5 shekels, pour le racheter devant l'Éternel, parce qu'il appartient à Dieu, puisque Dieu l'avait épargné. Et donc, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons qui étaient le sacrifice des pauvres. Et ça nous renvoie sur Joseph et Marie et leurs conditions sociales. Comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Siméon devait être un pentecôtiste. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. » Que tu as préparé devant tous les peuples lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Luc poursuit en disant « Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait sur lui. » Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant. » est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup soient dévoilées. Mais le récit ne s'arrête pas là. Il y avait aussi une prophétesse dans le temple, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort âgée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Dans ce passage de Luc, le temple est à la fois le lieu central du texte et un point de rencontre. Parce que le temple était réellement un point de rencontre. Tout Israël venait au temple. Tous ceux qui voulaient adorer Dieu venaient rencontrer Dieu, mais se rencontraient aussi les uns. Les autres. C'était un lieu d'adoration, mais de vie, un lieu profondément divin, mais aussi profondément humain. Là, Marie et Joseph vinrent avec leur enfant pour y accomplir la purification de Marie à la suite de son accouchement, selon ce qu'enseigne le livre du Lévitique au chapitre 12, versets 1 à 8, ainsi que la consécration de leur fils premier-né, selon Exode, chapitre 13, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient, dit Dieu. » Et cette première mention de la présence de Jésus au temple est réellement significative, pour notre foi en tout cas. Jésus n'était alors qu'un bébé de quelques semaines. Quand dans les bras de ses parents, il pénétra dans le temple. Là, dans ce lieu d'adoration, Jésus entra dans la plus grande, mais aussi la plus belle faiblesse qui soit. N'est-ce pas les bébés qui incarnent le mieux la faiblesse dans notre monde ? Oh, on peut connaître la faiblesse dans notre vie d'adulte. On peut être atteint d'une pathologie qui nous met dans un grand état de faiblesse. Mais quand on le considère bien, ce sont vraiment les bébés qui sont les plus faibles. Le nouveau-né est constamment dépendant des autres pour vivre. Il n'a aucun moyen de défense propre. Il est ainsi manipulé et manipulable sans pouvoir opposer une réelle résistance. On fait un peu de lui ce qu'on veut. Et le seul moyen qu'il a de s'opposer, c'est de pleurer. Quel moyen de défense ? Même ses pensées ne peuvent lutter contre celles des autres qui l'entourent. Il n'y a pas de bataille de pensée dans la tête d'un bébé avec ses parents. C'est bien rare qu'un nourrisson fasse une crise d'ado. Ou alors il est très précoce. C'est pourquoi il se laisse entièrement diriger. Il se laisse entièrement conduire Et il ne peut tirer sa subsistance et maintenir son intégrité que par le biais des autres. Et imaginez Jésus dans le temple en tant que bébé sans force. Peut nous permettre de réaliser comment nous entrons nous-mêmes dans la foi. Après notre nouvelle naissance à nous. L'apôtre Jean, dans ses épîtres, va parler des petits-enfants, des bébés. Puis après, il va parler des enfants, des jeunes gens, puis des pères dans la foi. Il y a là, évidemment, comme une croissance qui est marquée. Des étapes dans la vie spirituelle. Et nous sommes entrés dans la foi, pas en tant qu'adultes, mais en tant que bébés spirituels. Comme Jésus est entré dans le temple pour la première fois en tant que bébé, au travers de la nouvelle naissance, nous entrons dans la foi en tant que bébé spirituel. En effet, il n'est pas incongru d'établir une certaine comparaison entre la vie du Christ et plus particulièrement son rapport au temple et notre propre vie spirituelle. À ce propos, l'apôtre Pierre écrivait dans sa première épître, au chapitre 2 et au verset 21, que Christ est pour nous un exemple à suivre afin que nous suivions ses traces. Et de même, l'apôtre Paul, dans le même ordre d'idées, dira dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er, cette invitation qui nous est faite d'être des imitateurs du Christ comme il le fut lui aussi. Il y a donc un rapport entre Christ et nous. C'est pourquoi j'ai choisi cette thématique du culte sur le temple au cœur de notre foi. Mais dans la perspective ou l'angle de la relation du Christ avec le temple. Parce qu'il est notre modèle. Savoir comment un juif allait au temple dans l'Ancien Testament peut être intéressant. Mais savoir comment Jésus allait au temple est quelque chose d'éminemment important pour nous. Le temple fut d'abord un temps de consécration pour Jésus. Dans Luc chapitre 2, nous lisons que la principale raison de la présence de Jésus dans le temple, dans ce texte, était motivée par une obéissance à la loi juive. En rapport de la foi de ses parents, Joseph et Marie. Aussi, il est écrit dans Luc chapitre 2, versets 22 et 23, « Les parents se rendirent à Jérusalem pour présenter l'enfant au Seigneur, afin de le lui consacrer. En effet, il est écrit dans la loi divine, la loi de Moïse, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. » Il est important pour nous de réaliser ce matin que la nouvelle naissance doit être suivie d'une véritable consécration à Dieu. Jésus, juste après sa naissance, a été consacré à Dieu. Avait-il besoin de l'être, Jésus, consacré à Dieu? Mais Jésus obéissait pleinement à la loi de Dieu. Il n'en était pas défait. Au contraire, il en était le modèle parfait de l'obéissance. Et nous devons réaliser ce matin que notre nouvelle naissance à nous doit être suivie d'une véritable consécration à Dieu. Et comment se manifeste la consécration à Dieu? Elle se manifeste par une vie sanctifiée, une vie mise à part, c'est-à-dire une vie dont les actes et les attitudes sont en conformité avec la présence de l'Esprit-Saint qui est en nous. C'est ça la sanctification. Ce n'est pas une liste de choses à faire. C'est avoir une vie qui est en conformité dans nos actes, dans nos pensées, avec la présence de l'Esprit-Saint qui est en nous. L'Esprit-Saint qui est lui-même l'instigateur ou l'auteur au quotidien nous incite et nous pousse sans cesse à vivre dans la dimension de la sainteté de Dieu. C'est l'Esprit-Saint qui nous permet de nous sanctifier. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, dira Paul dans Philippiens 2:13. Ainsi, notre sainteté n'est que le résultat de la circoncision de nos cœurs opérée par le Saint-Esprit lors de notre régénération ou lors de notre nouvelle naissance. Et ce n'est pas par hasard si Jésus entra dans le temple après sa circoncision pour être consacré. Si la circoncision pratiquée sur les enfants mâles dans l'Ancien Testament était à cette époque l'unique moyen d'intégrer l'alliance abrahamique, l'alliance d'Abraham, ce n'était que l'ombre des choses à venir, qui annonçait la nouvelle alliance. C'est pourquoi l'apôtre prit soin d'écrire dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 29, « Le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, dit Paul, selon l'esprit et non selon la lettre. » Et sans rajouter à Paul, ça concerne autant les garçons que les filles. Il n'y a pas de différence concernant le salut entre les hommes et les femmes en Jésus-Christ. Aussi, ce que nous devons comprendre, c'est que sans cette consécration interne, cette circoncision du cœur qui fait de nous un enfant de Dieu par ce transfert d'un cœur de chair en cœur de pierre, comme l'annonçait si bien le prophète Ézéchiel au chapitre 36 et verset 26 de son livre, nous ne sommes pas en réalité un enfant de Dieu et donc un bénéficiaire de la nouvelle alliance si nous n'avons pas eu ce changement de cœur, cette circoncision intérieure. En effet, le prophète Jérémie, de son côté, annonçait la nouvelle alliance, qu'elle serait bien plus profonde que celle qui fut symboliquement attachée au signe de la circoncision. Parce que le signe de la circoncision n'était qu'extérieur. Et Jérémie, comme Ézéchiel, parle de quelque chose de bien plus profond par le fait qu'elle serait dans les profondeurs des vies, c'est-à-dire dans les cœurs circoncis, là où Dieu allait écrire sa loi. Sur les tables de notre cœur. Il fallait en nous un cœur nouveau pour que Dieu puisse y graver ses lois. On peut lire ensemble Jérémie 31-33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au dedans d'eux, j'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » On peut aisément comprendre qu'il n'y a pas d'enfant de Dieu sans consécration. C'est impossible. L'enfant de Dieu est obligatoirement consacré. Un chrétien, une chrétienne, est un homme, une femme, consacré. Et que la consécration n'est possible qu'après la circoncision du cœur. C'est après avoir été circoncis que Jésus a été consacré. On ne peut pas se consacrer sans avoir eu ce changement de cœur. C'est ce qui fait la différence avec le religieux qui se consacre sans la circoncision du cœur, sans la nouvelle naissance. Et le cœur de l'homme est propre à faire des actes religieux sans que son cœur ait été changé. Ce qui fait toute la différence, ce n'est pas le comportement de l'homme, mais c'est ce que Dieu va produire en lui par le Saint-Esprit afin de le rendre capable d'accomplir tout ce que Dieu attend de lui ou d'elle. Ce fut ensuite un temps d'accueil et d'intégration. Oui, parce que quand on arrive, quand on vient de naître de nouveau, quand on vient de passer des ténèbres à la lumière, comme si on était sorti du ventre d'une mère, l'enfant est dans les ténèbres et il passe à la lumière. Tout va changer. Son univers change. Tout change. Et d'un seul coup, il se rend compte qu'il y a des gens autour de lui. L'arrivée d'un nouveau-né dans une famille est de toute évidence un moment de joie intense, non ? Eh oui, enfin, en théorie. Qui annonce et réclame aussi un temps d'accueil et d'intégration au sein de la famille. Il faut s'habituer à cette nouvelle vie qui vient se rajouter à la cellule familiale et qui réclame une attention de chaque instant. Et je me retourne vers toutes les mamans qui savent qu'un nouveau-né, ça réclame beaucoup d'attention. Il faut avoir souvent les yeux sur lui. Quand Jésus arriva au temple, il était attendu par les vrais membres de la famille de Dieu. Et bizarrement, ce ne fut ni le souverain sacrificateur, ni même un sacrificateur qui va accueillir Jésus, mais un vieil homme nommé Siméon. On aurait pu se dire, Dieu est incarné. Le Messie se présente au temple. On aurait dû sonner des trompettes dans Jérusalem. Le voici, il vient à nous. Le souverain sacrificateur aurait dû venir et se courber devant le roi des rois. Et tous les sacrificateurs le suivre. Et se mettre au service du maître. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce fut un vieillard, Siméon. Luc chapitre 2, versets 25 et 27, il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et d'une piété profonde et sincère. Le Saint-Esprit reposait sur lui et il vivait dans l'attente de celui qui devait sauver Israël. En effet, l'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Aussi poussé par le Saint-Esprit, il vint donc au temple au moment où les parents de Jésus apportaient le petit enfant pour accomplir à son sujet les rites habituels ordonnés par la loi. Jésus était attendu par un homme rempli de l'Esprit Saint. Il n'y a que ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint qui attendent vraiment Jésus. Un homme droit et animé d'une profonde et sincère piété. En Siméon, nous découvrons les caractéristiques que nous devrions retrouver dans une église qui souhaite connaître la croissance et voir les bébés spirituels venir y être présentés pour y être consacrés. L'église doit sans cesse être dans l'attente comme le fut Siméon. Il attendait. Vous aimez attendre? L'attente est une position de foi. Si vous êtes chrétien, vous savez que la foi, c'est quelque chose de très important. Eh bien, le meilleur moyen de vivre dans la foi, c'est d'être dans l'attente. L'attente est une position de foi. Et souvent, on en manque beaucoup de foi. C'est ce qui fait qu'on est impatient et qu'on fait souvent ce que Dieu ne nous demande pas de faire. Et du coup, on ne fait pas ce qu'il veut. L'Église doit être sans cesse dans l'attente comme le fut Siméon. Elle doit se tenir dans la droiture et la piété. Elle doit être poussée par l'Esprit afin d'être prête au temps de Dieu pour accueillir Dieu en la vie de ceux qui viennent pour s'ajouter à elle. Ça vaut la peine de la refaire, celle-là. Elle doit être poussée par l'Esprit Saint, comme Siméon l'a été, afin d'être prête au temps de Dieu, comme Siméon l'a été, poussé par l'Esprit. La chronologie est parfaite. Il n'est pas arrivé la veille, il n'est pas arrivé le lendemain, il est arrivé au moment où Jésus a été amené par ses parents. Et puis, il n'avait pas reçu une notification sur son iPhone pour lui dire « Va vite au temple, il arrive. C'est le moment. » Le souverain sacrificateur a prévu une belle série, tu devrais y aller. Non, non. Pas d'annonce, c'est juste le Saint-Esprit qui l'a poussé. Donc nous devons être poussés par l'Esprit afin d'être prêts au temps de Dieu pour accueillir Dieu en la vie de ceux et de celles qui viennent pour s'ajouter à elle. C'est une église qui vit dans la dimension de la révélation comme l'était Siméon. Et quelle grâce quand l'Église est à l'image de ce vieil homme qui était présent dans le temple de Jérusalem. Nous devrions prier pour être des Siméons quand arrivent des nouveaux bébés spirituels au milieu de nous. C'était un temps aussi d'établissement de la paix. Un temps de consécration, un temps d'intégration et d'accueil, et un temps d'établissement de la paix. C'est alors que Luc précise que Siméon reçut Jésus dans ses bras, bénit Dieu et déclara en Luc 2, 29, « Maintenant, Seigneur et Maître, tu peux rappeler ton serviteur. Je m'en vais en paix, tu as tenu ta promesse. » On peut se dire, Siméon, pour lui, la finalité de toute chose, c'est Jésus. Ce n'est pas une bénédiction particulière que Siméon attendait. Siméon n'était pas là dans l'attente d'une bénédiction individuelle, le concernant en propre. Je viens au temple pour recevoir ma petite bénédiction. Non, qu'il attendait Siméon? C'était the bénédiction. C'était la bénédiction. C'était Jésus. Et quand tu reçois Jésus comme Siméon l'a reçu, la paix s'instaure directement dans ton cœur. Certains visent la paix comme une bénédiction que Jésus pourrait leur accorder, mais la paix, ce n'est pas juste une bénédiction que Jésus donne. C'est le résultat de la présence de Jésus dans une vie. Il est le prince de paix. Là où est Jésus, la paix est instaurée. Maintenant, maître et seigneur, tu peux rappeler ton serviteur. Siméon est en train de dire, mais moi, ma mission, c'est bon, quoi. Siméon dit, il est là, j'ai terminé. Nous, souvent, quand on arrive dans la présence de Jésus, on se dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Siméon dit, maintenant, je le laisse faire. Il est là. Je l'ai espéré, je l'ai attendu, je l'ai guetté. Et il est là, et quand il est là, je peux me retirer en paix. Quel drame quand il est là et qu'on continue à prendre une place devant lui. On lui dit, oui, mais t'es encore bébé. Hein. Donc moi, je continue un peu à diriger les choses, quoi. On verra quand tu seras majeur. Non ? Je m'en vais en paix, tu as tenu ta promesse. Formidable déclaration de Siméon. Je m'en vais en paix, tu as tenu ta promesse. Quand l'attente est enfin exaucée, c'est alors que la paix émerge de nos cœurs. Toute vie qui se consacre à Dieu est toujours l'objet d'une longue attente, d'un temps de foi patient, et qui établit une paix dans la vie de ceux et de celles qui priaient pour elle. Imaginez combien Siméon fut bouleversé à la vue du couple et de son bébé entrant dans le temple, car il ne priait pas pour n'importe quelle vie, Siméon. Il priait pour le Messie d'Israël. C'est pourquoi, au contraire de tous les autres, il était dans un discernement profond et il sut reconnaître dans le bébé Jésus, le Messie promis d'Israël, le Sauveur du monde et la lumière des nations. Il a vu des choses infiniment grandes dans quelque chose de tellement petit. Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on voit tellement de choses petites dans des gens qui se croient tellement grands. Siméon a su discerner en quelque chose sans force, faible, tout le potentiel divin qui était là, la présence même de Dieu dans ce bébé. Siméon avait non seulement dans son cœur cette paix provoquée par l'exaucement, mais bien plus encore une paix intarissable qui fut déversée en lui à la simple vision du prince de paix qui venait de rentrer dans le temple, et je dirais même dans son temple. Parce que vous savez que le temple de Jérusalem, comme le tabernacle, c'était pas seulement un temple au sens cultuel, c'est-à-dire un lieu d'adoration, comme on le pense souvent. Non, c'était le palais de Dieu et l'arche de l'Alliance, c'était le trône sur lequel le roi règne. Parce que notre Dieu n'est pas qu'un Dieu au sens spirituel, il est aussi un souverain qui règne sur son peuple. Et en fait, son temple est un temple-palais. Et Jésus entre dans son palais. Quelle devrait être l'attitude de tous les sujets du roi quand le roi des rois entre dans son palais? Siméon déclara alors, dans Luc 2,30, « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » C'est la déclaration de celui qui reconnaît le roi qui entre dans son temple. Et pas n'importe quel roi, le roi établi sur toutes les nations. Ça devient donc un temps d'émerveillement. Nos hommes politiques disent « Le monde aurait bien besoin d'être réenchanté. » Quand ils disent ça, ils disent « Les gens sont déprimés. » Alors il faudrait arriver à réenchanter le monde. Moi, je ne vais pas parler de réenchanter le monde. Je voudrais juste parler de l'émerveiller, de l'illuminer. Et pour qu'il y ait un émerveillement, il faut poser ses yeux sur le Christ. Sur le roi des rois, le sauveur des hommes. Chaque consécration devrait susciter l'émerveillement dans les cœurs. Surtout dans le cœur de celui qui a enfanté à la suite de son témoignage. Il est écrit dans Luc 2,33, le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Émerveillés. Qu'est-ce que c'est triste quand dans l'Église, on n'est même plus émerveillé. Dans sa vie chrétienne, on n'est plus émerveillé. Parce que si on n'est plus émerveillé, c'est qu'on est quoi ? Blasé. Quelle tristesse que d'être un chrétien blasé. Un chrétien qui ne s'émerveille plus de rien. Oh, qu'est-ce que j'aime les jeunes convertis, ceux qui arrivent à la foi. Ils s'émerveillent de tout, en principe. Mais on a l'impression que certains, au lieu d'aller d'émerveillement en émerveillement, deviennent de plus en plus blasés. Plus rien les émerveille. Une naissance spirituelle les émerveille plus. Une délivrance n'émerveille plus. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce que Siméon disait de Jésus. Quand une vie se consacre à Dieu, l'Église devrait prononcer des paroles pleines de grâce et reconnaître en elle le salut de Dieu. Voilà ce qui doit susciter l'émerveillement. Et ça doit susciter notre émerveillement. Si la naissance d'un bébé dans une famille fait briller les yeux de chacun, une nouvelle naissance dans l'Église devrait manifester l'écho de la joie qu'il y a dans le ciel. Parce qu'il y a beaucoup plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'auraient pas besoin de repentance. Mais lorsque celui qui était mort revient à la vie, mais c'est un jour de fête. L'Église devrait être dans une fête permanente. Pourquoi ? Parce que chaque jour, Dieu, par le Saint-Esprit, ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église était constamment dans la joie de l'enfantement spirituel. C'était jour de baptême tous les jours. L'Église était constamment dans l'enfantement. Tous les jours, des agneaux se rajoutaient au troupeau. Ça devient une annonce prophétique réaliste. Siméon ne s'arrêtait pas à prononcer des paroles de bénédiction. Parce que Siméon, lorsqu'il accueille le bébé, ce sont des vraies paroles de bénédiction, non ? Il a béni l'enfant. Il l'a accueilli avec le discernement que le Saint-Esprit lui avait donné. Et lorsqu'on accueille Jésus avec le discernement de l'Esprit, on ne peut que de prononcer des paroles d'adoration, de bénédiction. Mais Siméon va entrer maintenant dans un temps d'annonce prophétique réaliste. Il ne s'arrête pas à prononcer des paroles de bénédiction. Il prophétisa sur l'enfant à sa mère en lui rappelant des choses qu'elle ne devait pas ignorer. Des choses même qu'elle connaissait déjà. Et nous voyons ici clairement encore que la prophétie se décline bien souvent comme un rappel des choses déjà dites plutôt que d'en dire de nouvelles. D'ailleurs, les prophètes venaient souvent et disaient « Rappelle-toi, Israël, mon peuple. Rappelle-toi. » C'était rare quand un prophète disait « Voici une chose nouvelle. » Mais c'était souvent « Rappelle-toi, souviens-toi. » Oui, l'homme et la femme sont oublieux par nature et Dieu ne cesse par le biais des prophètes de nous rappeler les choses, de nous recentrer sur les priorités. Sur la priorité. Luc chapitre 2, versets 34 et 35, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Rappelle-toi. » Rappelle-toi quoi, Marie ? Rappelle-toi que cet enfant est destiné à être. À être quoi ? Pour beaucoup de gens en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Il y aura une double activité qui va se mettre en place quand cet enfant va entrer dans son appel, dans la mission pour laquelle il est venu. pour laquelle il est né, pour laquelle il s'est incarné. Il sera un sujet de contestation. Il provoquera la contradiction. Mais de cette manière, Marie, les pensées cachées, les mobiles profonds, les choses qu'on ne voit pas là, en apparence, mais qui se trament dans les profondeurs des cœurs. Eh bien, ces pensées cachées, ces mobiles profonds de bien des gens seront dévoilés. Chaque consécration à la suite d'une nouvelle naissance annonce également, écoutez bien, des occasions de chute et de relèvement. Elle provoquera sans doute bien des contestations, cette nouvelle naissance. Mais si de telles choses sont assurément un sujet de grâce, au moins en ce qui concerne Jésus, parce que la contestation que Jésus a déclenchée par son ministère avait un objectif positif, on pourrait dire. Si de telles choses sont au moins un sujet de grâce en ce qui concerne Jésus, elles seront sans doute aussi le sujet de bien des souffrances, non ? Il y a en chacun de nous un vrai potentiel de chute, pas seulement la nôtre, mais de faire chuter les autres. Des contestations et des contradictions aussi. Parce que le jeune croyant est plein de contradictions. Il voudrait apprendre à ses aînés comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. C'est plein de contradictions, un nouveau-né. Des contradictions qui demeurent attachées à chaque consécration. Si cela se réalisa positivement en ce qui concerne Jésus, parce que Jésus a grandi en sagesse et en force, ce n'est pas toujours le cas des nouveau-nés spirituels. Parfois, ils grandissent pas toujours en sagesse et beaucoup en faiblesse. Ce sont des enfants qu'il faut accompagner longtemps. Il faut les supporter avec amour, les enseigner avec fermeté. Si cela se réalisa positivement en ce qui concerne Jésus et permit de mettre bien à jour des pensées cachées et des mobiles profonds, croyez-moi que d'une manière souvent beaucoup plus négative nous concernant, nous serons enclins par nos vies à provoquer bien des chutes, mais aussi parfois des relèvements. Oui, les bébés spirituels attendent en effet à ce qu'on prenne soin d'eux et peuvent avoir même des difficultés à s'intégrer au sein de leur nouvelle famille. Ils passent d'un monde à l'autre. Des fois, arriver à s'adapter à la vie, c'est compliqué. Et à s'adapter à la vie spirituelle, c'est pas simple. Ils cherchent les encouragements et à être récompensés pour leur moindre effort, les bébés spirituels. Non seulement ils sont dépendants des autres, mais ils se servent aussi d'eux pour parvenir à combler leurs besoins. C'est pourquoi les chrétiens plus mûrs doivent le prendre en compte et faire preuve de patience et de bienveillance à leur égard. Vous savez, en tant que jeune dans la foi, s'il m'avait été personnellement possible d'éviter toutes ces situations, écoutez bien, ou par maladresse, jalousie, orgueil spirituel, le tout alimenté par de réelles méconnaissances, je fus armé d'un aiguillon blessant des frères et sœurs. J'aurais aimé parvenir à éviter cela. Croyez-moi, aujourd'hui, j'y repense souvent. Si comme Paul, en ses frères et sœurs, j'ai persécuté l'Église, et plus encore le Christ, il reste en moi marqué le souvenir de ces souffrances que j'ai pu infliger alors que j'étais tout jeune chrétien, voire même jeune serviteur. En rapport d'un zèle non maîtrisé, au sein d'un légalisme propre au nouveau-né que j'étais dans la foi. Oui, à cette époque-là, j'étais pas beaucoup animé par la grâce, mais le zèle de la parole de Dieu me faisait tuer ce que je jugeais ne pas être à la hauteur. Seulement, j'avais deux poutres dans les yeux, vous savez. Et j'essayais d'enlever les pailles dans les yeux de tout le monde. Et je revois ça chez tous les nouveaux convertis qui se pensent tellement justes avec des poutres dans leurs yeux qu'ils viennent amener leur contestation dans la maison de Dieu, voulant enlever toutes les pailles qu'ils voient dans tous les coins. C'est beau, ce zèle. Mais va falloir attiédir, voire refroidir ce zèle-là pour que celui de la grâce puisse monter au sein de ce cœur qui n'a pas encore complètement saisi quel Dieu il sert et celui qui l'a appelé. Ces marques toujours présentes en moi, vous savez. J'ai toujours l'image de ceux avec qui j'ai été tellement dur. Et pardon, Seigneur. Pardon. Pardon d'avoir été tellement intolérant, d'avoir manqué de patience, de sagesse, d'amour, de grâce. Jésus n'est pas venu pointer nos péchés, il est venu les prendre sur lui. Nous, on pointe le péché dans la vie des autres quand on est légaliste. On ne prend pas leur péché sur nous. Si nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, nous serions prêts à engager notre vie spirituelle et notre éternité pour le salut de notre peuple, de notre nation. Mais nous sommes tellement à cajoler notre salut, de peur de le perdre, que nous nous en oublions de le mettre sans cesse devant Dieu, dans l'intercession, en disant « Seigneur, j'engage le plus précieux trésor que tu as mis en moi pour le salut des autres. Pourquoi ? Parce que Jésus, c'est ce que toi tu as fait. Et parce que je veux te suivre à ton exemple. » Ainsi, pour sortir de cette position d'enfant spirituel, de persécuteur potentiel, pour sortir de cette position d'enfant spirituel, de persécuteur potentiel, de l'immaturité de la foi propice à blesser, il faut que l'épée transperce notre cœur. Et ce fut la dernière parole de Siméon à Marie dans le temple. Luc 2, 35, quant à toi, Marie, tu le ressentiras comme si une épée te transperçait le cœur. Et Marie aura effectivement le cœur transpercé à la vue de son fils agonisant sur la croix. Comme le cœur de chaque enfant de Dieu doit l'être par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Oui, dans Hébreux 4, 12, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Une épée te transpercera le cœur. Ainsi, chaque chrétien doit être un transpercé. Comme le Maître l'a été. Et de son cœur doit pouvoir couler la source d'eau vive dont Jésus parle dans Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais pour que cette source jaillisse, il faut être transpercé. Il faut que le bébé soit transpercé. Qui veut voir son bébé être transpercé? J'annonce à tous les nouveaux, si vous voulez avancer avec Dieu, préparez-vous à ça. Parce que Dieu ne veut pas des sources scellées, mais des sources qui coulent. Et si vous ne l'avez pas encore été transpercé, préparez-vous à l'être. Jésus veut faire jaillir de nos cœurs la source qu'il a mis en nous. Mais pour cela, il doit nous transpercer par l'épée de sa parole, l'épée de son esprit. Et croyez-moi, on le sent passer. Ça ne se fait pas la nuit pendant que vous dormez. Vous savez, c'est comme la sonde, là. Vous avez déjà été sondé ou celui qui vous sonde, il n'est pas trop adroit. Il fait ça là pour essayer de trouver, vous savez. Comme celui qui vous pique pour trouver la veine, mais il la trouve pas, vous savez. Et là, vous serrez les dents et vous faites, mais il va y arriver. Il me sonde. Et il me connaît. Et parfois, son épée, je la sens passer. Ainsi, chaque chrétien doit être transpercé comme le maître. Il reste beaucoup de sources en cette église qui doivent être transpercées. Je le dis ce matin. Des cœurs spirituels qui doivent être ouverts par l'épée de l'esprit. Afin que puisse en écouler une eau vive pour désaltérer un monde assoiffé. Je conclus. Ce jour-là, dans le temple de Jérusalem, il y avait aussi une vieille femme. Anne. Il est mentionné qu'elle était aussi une prophétesse. Et qu'elle demeurait dans le temple qu'elle ne quittait jamais. Elle servait Dieu le jour et la nuit. De quelle manière? En jeûnant et en priant. Anne n'était pas prophétesse parce qu'elle avait un truc qui lui était tombé sur la tête un beau matin. Cette femme voyait dans l'invisible. Parce qu'elle se tenait dans la consécration. Elle jeûnait. Elle priait. Autant que cela lui était possible. Elle n'avait même pas de temps à consacrer aux choses qui étaient à l'extérieur du temple. Elle restait tout le temps à l'intérieur. Elle attendait quelque chose. N'est-ce pas curieux de voir que ce furent deux vieilles personnes dont la vue avait sans doute un peu décliné qui reconnurent dans ce bébé apporté au temple le vrai libérateur ? Alors que tous les autres ont rien vu, elle, elle a bien vu. Siméon aussi. Et il y a sans doute là un beau pied de nez à la chair qui pense sans cesse que ses capacités suffisent pour discerner les choses. Aux gens qui se disent, et aux gens qui se disent spirituels juste parce qu'ils officient dans des services. Il y en avait des gens dans le temple de Jérusalem qui officiaient. Il y avait les chantres, il y avait tous les lévites, il y avait les sacrificateurs, le souverain sacrificateur. Ça courait dans tous les sens. Bah écoutez voir, tous ceux qui servaient, ils n'ont rien vu. Le temple était là pour accueillir le Messie est dans le temple, ils ne le reconnaissent pas. Pourtant, des gens actifs, ils ne voyaient rien. Rien. Pff, brouillard total. Et tu as deux personnes âgées, mais poussées par l'esprit. Dans la consécration, dans le jeûne, vont arriver à voir ce que personne d'autre a réussi à voir. Le jeûne et prière, c'est surtout pour nous ouvrir les yeux qu'on jeûne. C'est pas pour que Dieu ouvre ses mains. Certains vont jeûner pour que Dieu ouvre ses mains. Moi, je prie pour que ce soit mes yeux qui s'ouvrent. Comme ça, le jour où Dieu ouvre ses mains, je serai au bon endroit pour accueillir ce qu'il va envoyer. Il y a donc là une logique spirituelle. Force est de constater que dans le temple, seules deux personnes reconnurent le Messie, assurément parce qu'elles-mêmes étaient profondément consacrées. Et il y a une logique spirituelle que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que seule une personne consacrée peut reconnaître une autre personne consacrée. Pourquoi ? Parce qu'il y a le même esprit en eux. Les autres restent aveugles, même s'ils ont 10 à chaque œil. Je terminerai ce message, ce premier message de notre série sur le temple au cœur de notre foi, avec un dernier point qui nous enseigne à travers Anne une autre réalité importante découlant de l'entrée de Jésus dans le temple. Qu'est-ce qu'a fait Anne ? Elle fait quoi, Anne, une fois qu'elle a reconnu Jésus. Un cantique ? Non. Verset 38. Elle aussi survint au même moment et se mit à louer Dieu. Elle ne compose pas un cantique, elle loue. Elle parla de l'enfant à tous ceux qui à Jérusalem vivait dans l'attente du libérateur. On pense qu'elle devait avoir à peu près 80 et quelques années, Anne. On lit dans ce dernier verset une double dimension comportant premièrement la louange et deuxièmement le témoignage. La présence de Jésus dans le temple déclencha premièrement la louange dans la vie d'Anne, mais ne s'arrêta pas là à contempler égoïstement, comme si la fin de toute chose était enfin arrivée. Non, cela provoqua en elle une formidable volonté d'aller évangéliser tous ceux qui attendaient le libérateur. Il y a dans ce dernier verset la raison suffisante qui doit propulser chacun de nous dans le terrain de l'évangélisation. Ainsi, quand Jésus entre dans son temple, chaque adorateur doit premièrement louer le Seigneur pour aller ensuite vers les gens qui soupirent après leur propre libération afin de leur annoncer cette bonne nouvelle de la naissance tant espérée du grand libérateur que Dieu nous a envoyé, à savoir Jésus. Et c'est ce que Anne a fait. Je l'ai vu. Maintenant, je vais aller en témoigner partout autour de moi, chez ceux qui soupirent après la libération. Il y en a qui soupirent après leur libération. Et Anne était là pour aller leur faire voir le chemin à suivre. 84 ans, elle donne une leçon à chacun de nous.